Louis Albrand a grandi dans une ferme à Saint-Crépin. Il connaît bien la vie des paysans des Hautes-Alpes dans les années 50 et a créé une collection d'objets qu'il a partagés sur les réseaux sociaux. Cette passion de l'histoire du terroir l'a conduit à étudier les archives du département et à retrouver la trace des femmes et des hommes qui ont marqué notre territoire à travers les âges. Il les évoque ici en descendant le cours de la Durance. Il nous présente chaque semaine la biographie de chaque personnage de ce territoire alpin sur Fréquence Mistral. Au micro de Laura Giraud.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fréquence Mistral. Nous avons le plaisir de retrouver Louis Albrand pour nos personnages célèbres au alpin. Bonjour Louis.
Bonjour, bonjour à toutes, à tous et aux auditeurs. Fidèle et passionné par l'histoire locale de Radio Mistral. Aujourd'hui, nous allons parler d'un savant. Un vrai savant, c'était l'homme. On disait que c'était l'homme qui avait le plus de connaissances de son temps. Et cet homme vivait chez nous, vivait près de Digne. Il est né à Champetier, un petit village près de Digne où il gardait les troupeaux. Sa famille était de très modestes paysans. Champtercier, exactement, aujourd'hui on peut encore aller se promener dans les rues de Champtercier, il y a une petite église. Et tout jeune, petit berger, il était fasciné par le ciel. Quand le soir tombait, aux grandes dames de son père, il grestait avec ses troupeaux, tard dans la nuit, car la nuit le fascinait, et pendant de longues heures, il restait à contempler les étoiles et la lune. Le père, modeste laboureur provençal, travaillait une maigre terre qui entourait les quelques masures de Champtercier. Le curé du village était son oncle maternel. Il remarque au catéchisme que cet enfant a une grande vivacité d'esprit. Il le reçoit régulièrement à la cure, lui apprend un peu de latin, et plus tard il le signale à l'évêque en lui disant qu'il faut à tout prix favoriser son entrée dans le collège de Digne, ainsi qu'à Aix plus tard, où il va s'initier à la philosophie et à la rhétorique, et deviendra un brillantissime élève, ce qui le conduira à entrer au séminaire d'Avignon, où il va étudier la théologie. Mais il se forme aussi dans les langues anciennes, l'hébreu, le grec, le latin, bien sûr. Et en 1617, nous sommes donc au début du XVIIe siècle, siècle de grands savants qui vont révolutionner l'astronomie, il est nommé professeur de philosophie à Aix-en-Provence. Il n'a que 25 ans. Et il faut bien vivre. Il est croyant. Les femmes l'intéressent pas beaucoup. La même année, il entre dans les ordres. Sa carrière commence. En 1617, donc, l'université d'Avignon lui décerne le titre de docteur en théologie, puis le donne prêtre à Marseille, professeur de philosophie Aix. Il approfondit dans cette université la physique, l'astronomie, les mathématiques, l'hébreu, l'arabe, le grec. C'est un esprit universel, vaste culture, notamment en mathématiques et astronomie. Il voyage à Paris, en Hollande, et commence à correspondre avec les plus grands savants européens, Descartes, Pascal, Galilée. Il est leur égal dans la connaissance, mais il a en plus des caractéristiques. Des caractéristiques, on pourrait dire, d'ascète, de montagnard, de terrien, un enfant qui tôt a observé, a réfléchi sur le monde et sur le destin de l'homme. Sa douceur, sa grande politesse, sa modestie vont, en plus de sa grande science, attirer à lui les meilleurs esprits du moment. Le cardinal de Retz, tout puissant, lui accorde sa protection en 1645. Il est nommé professeur de mathématiques au Collège Royal, qui aujourd'hui le très célèbre Collège de France à Paris. Sa réputation est immense. Dès 1620, il a défini la position de Jupiter par rapport à une étoile fixe. Il décrit la position de la planète Mars, explique les aurores boréales. c'est un grand spécialiste des éclipses. Et pour vivre, il a peu de besoins, il exerce les modestes fonctions de prévôt de la cathédrale de Digne. C'est un ascète, il vit de peu, comme un moine, et consacre tout son temps à l'étude et à l'observateur des astres. Son principe de vie est ora et labora, prie et travail. Son immense correspondance avec tout ce qui compte en Europe dans la science occupe une partie de ses nuits. Il correspond avec Molière, le comte de Provence, Louis de Valois, la reine Christine de Suède, etc., etc. En 1631, l'ancien petit berger de Digne décrit le passage de Mercure devant le soleil qu'avait prévu Kepler. C'est l'époque de Galilée. Galilée, lui, à Rome, a affaire à la hiérarchie catholique qui n'apprécie pas ses découvertes. Il sait, lui, l'enfant de Digne, Gassendi, que Galilée a raison, il lui écrit en février 1634 pour le consoler, car il sait, selon la formule, que pure si muove, c'est-à-dire vous m'avez condamné, cependant elle tourne, c'est-à-dire la terre tourne bien autour du soleil, quoi qu'en pense la rétrograde hiérarchie cléricale. Et le pape. Mais Galilée aura plus de chance que Giorgio Bruno, puisqu'il se rétracte, il sauve sa vie. Et il ne finira pas sur le bûcher. À Marseille, en 1636, lors du solstice d'été, Gassendi mesure la hauteur du soleil et confirme les travaux de Pythéas le grec. Son influence de savant est alors universelle, aussi bien dans le domaine scientifique que philosophique. En effet, ses découvertes et son intuition éclairent les théories d'Épicure, qui croyait à l'atomisme. Épicure, le savant grec, avant qu'on puisse observer les atomes, avait déjà eu l'intuition que la matière était composée d'atomes. Ainsi, Gassendi s'oppose à Aristote et à Descartes. Il croit à la providence, à l'immortalité de l'âme, qui, pour Descartes, est logé dans le corps. Molière est influencé par Gassendi. Il a suivi ses enseignements et a été très influencé par sa philosophie, notamment sa doctrine sensualiste sur la génération des idées. Gassendi a l'intuition de tout. Il a l'intuition des atomes qui seront découverts qu'au XIXe siècle. En 1648, il devient tuberculeux. Il veut bénéficier du climat du Midi et il voyage à nouveau en Provence. Et c'est là où il établit la théorie du probabilisme qui sera reprise par la science atomique moderne. C'est-à-dire qu'avec les outils mathématiques qu'il a lui-même mis au point, il a l'intuition géniale qu'avaient eu les philosophes de l'Antiquité, c'est-à-dire l'intuition que la matière est faite d'atomes. Il reprend donc l'hypothèse atomique des anciens de Lutèce, Épicure, etc. et la remet à l'ordre du jour en l'étayant de ses découvertes mathématiques. Donc nous avons affaire là à un génie, on en parle trop peu, sauf dans les milieux universitaires philosophiques. À Digne est né un grand homme. Il faudra attendre le début du XXe siècle pour que toutes les philosophies s'accordent sur la théorie atomique, et cela après les travaux du Nobel Binning et Roer en 1986, au XXe siècle, qui observe enfin les atomes grâce au microscope à balayage. Voilà qui était Gassendi. N'oublions pas cet immense savant qui a beaucoup écrit d'ailleurs sur l'astronomie, la philosophie, la météorologie, la physiologie, la musicologie, et sur l'histoire aussi. Il a écrit un très beau livre que l'on trouve encore sur l'histoire de l'église de Digne. Il a publié énormément de 1624 à 1955. J'ai dénombré une quarantaine de ses écrits auxquels s'ajoutent ses sermons qui la plupart n'ont pas été publiés. N'oublions pas que cet homme a marqué son temps, il a marqué l'histoire universelle de la science, et cet homme avait été un petit berger de Champtercier, près de Digne.
Merci beaucoup.